Bon, ben, on a une raison ce matin pour parler de rivalité dans le sport. On a, bien sûr, en tête canadien et nordique, là. Mais
on peut élargir ça, là.
Absolument.
Parce que c'est l'essence même du sport, les rivalités.
Ouais. Là,
c'est...
Avec Rick est de retour ce matin. Bonjour.
Bonjour, Paul. Bonjour, Alain.
Alors, bien, évidemment, le fameux duel Nadal-Djokovic, là, c'est, comme on dit, l'événement, la rivalité du tennis.
Oui. Mais le sport, c'est une business de divertissement, puis on se nourrit avec passion, énergie, émotion, bonheur, puis les rivalités, bien, ça l'intensifie, cette passion-là. Alors, on se prépare à une série Maple Leafs canadiens, qui est une des grandes rivalités du sport. Les deux équipes originales parmi les six, les deux équipes canadiennes de l'époque, des années 10, 20, 30, 40, 50, où tous les Canadiens se divisaient en deux. Ils choisissaient soit Canadiens, soit Leafs. C'est pour ça que les Canadiens sont si populaires à Vancouver, à Winnipeg. À l'époque, il n'y avait pas de Canucks, il n'y avait pas de Jets. Puis les gens, ben, qui aujourd'hui ont notre âge, ben, ils regardaient ces équipes-là en disant ben, « Les Canadiens gagnent des Coupes cette année, souvent on va aimer les Canadiens ». Alors, à chaque visite des Canadiens dans l'Ouest, il y a une légion de fans qui les adorent. Puis, il y a aussi dans le sport, quand je regarde ça sur une base mondiale, Paul Alain, Yankees-Red Sox. Ces deux-là se sont affrontés plus de 2000 fois. Ça, c'est des matchs. C'est sûr qu'au baseball, tu t'affrontes quand tu es dans la même division 18 fois par année. Ça fait des accumulations quand tu es rendu à 100 ans, là. Plus les séries. Alors ça, c'est pas mal intense. Si je regarde dans le monde entier, deux choses qui me viennent en tête, c'est le cricket et l'Inde et le Pakistan. Ça, c'est une rivalité comme gigantesque. Puis au rugby, l'Australie puis la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est des sports nationaux pour ces pays-là. On est loin de ça, mais on le voit de temps en temps apparaître lors des championnats du monde.
Mais dans ça, c'est un niveau différent de rivalité parce que ça implique des pays à ce
exactement.
Moment.
Exactement. Les sports nationaux, puis c'est des pays, puis évidemment, il y a une légion, puis il y a des centaines de millions d'habitants dans ces pays-là, fait que ça crée beaucoup, beaucoup d'intensité. Pensez à Real Madrid contre Barcelone. Ça, c'est une rivalité qui date de plus de 100 ans. À chaque fois qu'ils s'affrontent, on appelle ça El Clasico, les deux équipes espagnoles les plus dominantes.
Est-ce que tu penses que les joueurs, encore aujourd'hui, là, je parle pas d'un affrontement comme Nadal, là, c'est un contre un, là, mais que les joueurs, je dirais, sont toujours émotivement aussi impliqués que peut-être qu'il y a 10, 15, 20 ans?
C'est une bonne question parce que c'est vraiment la responsabilité des organisations de nourrir ça puis de leur parler de l'histoire du club et de leur parler de ce qui comptait. Fait que quand les joueurs sont au Centre Bell, ils regardent en haut, ils voient les bannières de joueurs retirés qui datent de Maurice Richard puis de Guy Lafleur, puis ils voient aussi les Coupes Stanley qui retournent jusqu'en 2015-2016. Pardon, excusez-moi, 1915-1916. Alors, ça veut dire quoi? Ouais, ça c'était une vraie erreur, là. Ça veut dire que les joueurs ont un moment pour réfléchir un peu aux legs, puis aux chaussures, puis aux patins qu'ils portent en représentant cette équipe-là. Fait qu'à quelque part, moi, je trouve que c'est une source de motivation. Puis c'est quelque chose qui devrait les dynamiser.
Mais quand ce sont des individus, comment tu vois ça, là, comme c'est le cas de Nadal et Djokovic?
Ben là, ça, c'est différent. Ça, c'est comme Ali Frazier. Dans la boxe, s'affronter trois fois, ça, c'est comme déjà beaucoup. Ces deux-là ont commencé en 71, puis ont terminé ça à Manille, aux Philippines, dans le Thriller in Manila, en 1975. Puis t'as des Chris Evert contre Martina Navratilova qui sont affrontés 80 fois. Tu sais, ça, c'est des grosses rivalités. Mais Nadal-Djokovic, c'est contemporain. Ça date depuis 2006, ça fait 15 ans. Ils sont au sommet depuis le début, ils sont encore aujourd'hui. Hier, ils se sont affrontés à Rome. Ça fait 57 fois qu'ils s'affrontent, puis c'est 29-28 pour Djokovic. Non, je veux dire, l'égalité entre ces deux-là, là, il y en a un qui mène les grands chelems, ça c'est Nadal, 20-18. Puis les deux ont chacun 36 victoires en tournoi du Masters 1000. Non, mais ça continue pendant des heures, les chiffres, qui te montrent comment ces deux-là ont vraiment transporté. J'ai rien contre Federer, c'est que lui a commencé 5 ans avant les autres, et puis son temps est presque terminé. Puis Nadal et Djokovic, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas terminé de jouer, les autres. Ils n'ont pas terminé de dominer les jeunes et de rester au sommet. Puis à chaque fois qu'on pense qu'il y a une nouvelle génération qui s'en vient, comme Shapovalov la semaine dernière, il y avait 2 points de match pour battre Nadal et le sortir, bien, il les a perdus. Puis Nadal a poursuivi sa route puis a gagné le tournoi hier. C'est ça qui est incroyable, c'est cette durabilité, cette longévité, puis cet affrontement qui devient de plus en plus comme incontournable. Ça, c'était hier à Rome, là, c'était un match, premier set Nadal, deuxième set, il se fait ramasser par Djokovic 6-1, puis rebondit au troisième set, puis ils nous ont donné 3 heures de divertissement tennis incomparable. C'est vraiment quelque chose d'unique.
Mais si on revient à Canadiens et Leafs, ce qui contribue beaucoup à nourrir la rivalité, c'est tout ce qu'il y a autour. Là, il n'y aura personne dans les gradins. En séries éliminatoires, pour en avoir couvert des paquets dans ma vie, là, tu sais, les vestiaires sont pleins de journalistes, des caméras, des écoutes, là. Là, il n'y aura rien de ça, là. T'auras
ça,
pas,
c'est
là.
Vrai.
Et quand les joueurs vont sortir, là, vont quitter l'amphithéâtre pour retourner à l'hôtel en autobus, là, les partisans, là, qui attendent les joueurs à la sortie de l'amphithéâtre, c'est là, tu vois rien de ça, là.
Ouais, puis Paul a raison quand il l'a mentionné plus tôt. Ça, c'est quelque chose qui ne sera pas là cette année au rendez-vous. Puis pour toutes les équipes, c'est la même chose. Parce que, effectivement, dans la foule, t'as la moitié du building, normalement, en blanc pour les Leafs ou en rouge pour les Canadiens.
Ben,
c'est
écoute,
comme ça à Toronto aussi.
Ben oui, tu sais que moi, j'ai assisté à quelques matchs, pas de série, là, mais de saison régulière, Canadiens-Toronto, là. Pas toujours édifiant, là, ton voisin de banc là, qui arrive par train puis qui a passé par le Peel-Pop
voilà.
Puis qui débarque. Non, mais c'est ça. Là.
Non, mais Paul, tu te rappelles le nombre de fois que les Leafs arrivaient avec leurs fans qui envahissaient le Centre Bell?
Ben oui.
Ils se mettaient à huer nos joueurs.
Ben oui.
C'était go Leafs go, plus fort que go Habs go.
Absolument.
Tu vas à Montréal, tu vas à Toronto, c'est l'inverse. Ça crée
exact.
Plus pour les Canadiens que pour les Maple Leafs.
Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui ne rejoindra pas les jeunes joueurs. Tu sais, comme Austin Matthews, là. Carey Price, ils n'ont jamais affronté l'adversaire dans un contexte de série. Ça manque. Ça, c'est vrai. Mais au moins, on a une série. Le Canadien est là. C'est la première fois depuis 42 ans qu'ils s'affrontent. C'est quelque chose quand même phénoménal. La plus grosse rivalité dans l'hockey, je le répète quand même, c'est Bruins-Canadiens. Ça, il n'y a pas de doute. En termes de match, en termes d'importance, en termes d'intensité, c'est pas dit qu'on n'aura pas une cette année non plus, là. Mais Leafs-Canadiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Puis en 79, justement, quand ils se sont affrontés, Canadiens avaient été jusqu'au bout pour gagner la Coupe Stanley.
Il faut dire qu'il y avait un contexte. C'était le Parti québécois avait pris le pouvoir. T'avais le contexte anglo-franco. T'avais eu, bon, je lisais un article là-dessus, là, les fameux épisodes de la Sun Life et puis des sièges sociaux qui quittaient vers Toronto. Et pendant ce temps, Ray, ben, aux États-Unis, on joue au hockey devant des buildings presque remplis à pleine capacité.
Non, mais c'était quelque chose. Hier soir, je regardais le match Tampa Bay contre Floride. Sérieusement, avez-vous vu ce match-là avec l'intensité? Ouais. J'ai honnêtement jamais vu autant de monde en Floride voir un match. Puis c'était hier, puis c'était pas en pleine pandémie.
Vegas, c'est la même chose hier après-midi.
Ils croient beaucoup aux chances des Panthers, puis c'est les champions défendants de la Coupe Stanley qui sont de l'autre côté, une rivalité. Ça, c'est ce que Bettman rêvait dans sa soupe depuis des années, c'est d'avoir une rivalité en Floride. Mais là, il l'a.
Merci. On se reparle bientôt, Ray. Il est 8h30 pile. Non, les partisans, Alain, des Maple Leafs de Toronto.
Oui, je sais.
L'homme de Cro-Magnon, là. Tu dis?
Non, mais c'est vrai, il n'a pas la raison.
Il est en état d'ébriété depuis la veille, je pense.
Il débarquait du train, il allait s'installer au Peel-Pop, puis il en ressortait seulement pour
le
aller...
Le spaghetti épicé et le pichet. Oui, et quand il était à côté de toi, tu sais, 4-5 chum.
Dans un état second.
Ça ressemble un petit peu à ça. Exactement ça. Alors, la 20, monsieur.